Question ce matin sur la santé mentale des Français, la santé des Français face à la crise. Il y a de quoi s'inquiéter si on en croit les dernières enquêtes de l'IFOP ou d'Ipsos. Et c'est même alarmant parmi les 18-25 ans. On en parle donc ce matin avec deux psychiatres, nos invités, Relia Schneider, spécialisée dans les thérapies comportementales et cognitives, et Serge Effez, psychiatre au service de thérapie familiale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc, bonjour à tous les deux. L'actualité, pas de reconfinement, en tout cas pas dans l'immédiat, a dit hier soir Jean Castex, un peu comme si l'exécutif avait entendu vos recommandations psychiatriques. Car il faut peut-être le rappeler, Relia Schneider et Serge Effez ensuite, vous n'êtes pas favorable à la perspective d'un reconfinement. Pour quelle raison ?
Écoutez, on se serait adapté s'il y avait eu un confinement, un reconfinement. Il y en aura peut-être un. Je crois qu'il faut être résilient par rapport à ça. Mais effectivement, aujourd'hui, je constate un phénomène de grande usure. Et je crois que dans les étapes qu'on a eues, le premier confinement, on est tous partis un peu la fleur au fusil en se disant on va gagner, on va réussir à tout maîtriser. C'est pas le cas. Le deuxième, il y avait une énorme carotte qui était on va passer les fêtes de Noël en famille si on est sage. Et je crois qu'on a tous été très très sages et très motivés. Et là, il y a une franchement grosse perte de sens si on était reconfiné encore. Donc effectivement, c'est important d'être toujours un peu à l'extérieur.
Et Serge Effez, pour vous, ce n'est pas seulement de l'anxiété ou de la déprime passagère. Hein. Vous dites que nous basculons dans une dépression avérée. Avec quelles conséquences, donc ?
Oui. Bah oui, on est dans une vague psychiatrique et on est dessous. On est sous l'eau, les gens vont très très mal. Vous savez, j'ai des consultations chaque jour, que ce soit en pédopsychiatrie ou en psychiatrie d'adultes, qui sont calamiteuses. Les gens n'en peuvent plus, et en ce sens, je rejoins tout à fait ma consoeur pour dire que c'est quand même une bonne nouvelle. Et j'espère que ça ne va pas aller plus mal sur le plan de l'épidémie, mais en tout cas sur le plan psychique, je peux vous dire que ça va soulager énormément de gens, ces annonces de Castex hier soir, et surtout pour une chose, c'est que pour une fois, on ne nous traite pas comme des enfants. C'est-à-dire, on ne nous dit pas, vous êtes punis, allez au coin, faites ceci, faites cela, sortez, revenez, avec des recommandations qui ne sont plus des recommandations, mais qu'on ressent comme des ordres, et qui deviennent insupportables. Et là, on nous dit autre chose. On nous dit, on fait appel à votre responsabilité d'adulte. Vous savez qu'il y a des choses à faire pour endiguer cette épidémie. On vous oblige plus à le faire en vous retenant chez vous, mais s'il vous plaît, continuez évidemment à être prudent, à avoir des gestes barrières, et je préfère de loin ce message qui nous considère comme des gens responsables.
Serge Effez, c'est donc pour vous une bonne solution qui a été énoncée hier soir pour résoudre cette délicate équation d'un confinement à la fois efficace, donc un peu même très serré, et puis suffisamment souple pour ne pas aggraver donc la détresse que l'on vient d'évoquer.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai, en entendant ça, je me suis dit, ah, les gens vont mettre un petit peu la tête hors de l'eau, parce que dans mes consultations, depuis deux semaines, je n'entends que ça. Je n'entends que, ah non, pas un autre confinement, je le supporterai pas, je n'en peux plus. L'idée de me retrouver encore une fois bloqué chez moi en télétravail avec mes enfants dont je dois m'occuper toute la journée, sortir à une heure précise, tout ça, je n'en peux plus.
Serge Effez, quand vous parlez de conséquences, oui. Est-ce qu'on peut parler de séquelles? Et je peux poser la même question à Relia Schneider. Est-ce qu'il y aura vraiment des séquelles, comme après un accident, qui constitue aussi un traumatisme, pendant longtemps ?
Oui, moi je le crains parce que c'est ce qui se passe dans tout traumatisme. C'est-à-dire qu'il y a la période traumatique et il y a la période post-traumatique dont on sait très bien qu'elle dure plus longtemps. Dans la période un peu traumatique, on mobilise les défenses, on mobilise l'énergie, on trouve toutes les ressources qu'on peut à l'intérieur de soi pour lutter contre ce qui est en train de se passer. Et puis, une fois qu'on en est sorti, parfois 6 mois, 1 an après, eh bien, on est dans la récupération, et c'est parfois extrêmement difficile de ne pas sombrer à ce moment-là dans l'anxiété et la dépression, parce que les défenses justement ne sont plus très 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 actives. Donc si vous voulez, là on serait rentré avec un confinement dans encore un espèce de coup sur la tête et encore un traumatisme qui se serait ajouté, et on n'est pas dans un traumatisme, on est dans du traumatisme cumulatif avec tout ce qui est en train de se passer.
Aurélia Schneider, c'est le manque de lien social qui est le plus destructeur en ce moment dans nos schémas mentaux, parce que l'homme est fait pour la sociabilité.
Alors, oui, on pourrait dire ça, mais moi je trouve que ce qui est surtout marquant, c'est la perte de sens. La perte de sens pour les jeunes de 20 ans qui sont en plein essor, études, avec des projets et qui se disent mais qu'est-ce qu'on va trouver sur le marché du travail, que du chômage, que des boîtes qui auront fermé. Donc le sens des études, hein, donc perte de sens. Perte de sens aussi pour la population des actifs qui sont là à se dire mais à quoi ça sert notre retraite, enfin bon, on paye mais... Et puis, de toute façon, on n'arrive pas à travailler comme on veut.
Le télétravail n'a pas que
alors,
de...
Enfin, ça, c'est ce y a que des j'allais dire, on en revient et, beaucoup ouais. aussi. Moi, j'entends ça dans mes consultations, ouais. c'est-à-dire que le télétravail a apporté beaucoup. Mais aussi, à un moment, il faut aussi retrouver, vous parliez de liens, tout à fait. Et puis pour les plus âgés, c'est la perte de sens de plus pouvoir toucher ses petits-enfants, ses enfants, les embrasser, enfin, très lourd. Et donc, cette perte de sens, eh bien, c'est un élément de la dépression. Quand on est déprimé, c'est qu'on a perdu l'idée de la motivation et du sens. Alors ça, c'est un point fondamental pour le moral de nous tous, que nous gardions l'idée que tout ça a un sens, que peut-être ça va durer encore quelques mois, mais qu'un jour ça va s'arrêter, et qu'il ne faut pas perdre nos buts de vue. Mmh. Et on perd nos buts de vue en ce moment.
Serge Effèze, c'est donc, à la différence du premier confinement il y a un an, le fait qu'il n'y ait plus d'effet découverte, d'expérience de solidarité, il y a de moins en moins d'ailleurs d'apéros, on voit ça sur Internet, il y avait beaucoup d'apéros par Internet, tout ça c'était
les gens sont lassés.
C'est parce que on a vécu une première expérience et qu'il ne se passe plus rien après avec beaucoup d'incertitudes. C'est ça qui rend la séquence plus difficile à vivre aujourd'hui.
Oui, oui, absolument. La première séquence, c'était une découverte, c'était une expérience. Et beaucoup de gens ont tiré des choses positives de cette expérience, y compris dans l'expérience du télétravail, et se sont dit peut-être qu'on pourra alterner plus tard télétravail et travail en présentiel. Ça va beaucoup alléger mon existence et ça va être très intéressant. Ils ont trouvé d'autres modes de relation avec leurs enfants qui étaient à la maison, ils ont retissé des liens. Il s'est passé des choses tout à fait importantes à ce moment-là, parce qu'on avait une perspective. On se disait, voilà, ça va jusqu'à l'été et puis après, ben, on reprendra une vie normale avec les acquis de cette expérience. Et puis on est rentré là dans un tunnel sans fond où on est dans l'hiver et on voit très peu de lumière au bout. Alors le vaccin effectivement amène quelque chose d'un petit peu paradoxal, c'est que à la fois on a le sentiment que sans doute grâce à ça on va s'en sortir, mais on reçoit sans arrêt des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire il y en a pas suffisamment, il y a pas suffisamment de seringues, ou peut-être que ce vaccin ne va pas être efficace contre les nouveaux variants. Donc si
finalement,
vous voulez,
c'est l'incertitude.
Il y a à la fois cette fébrilité de se dire
c'est l'incertitude.
Oui, on est exactement,
on
est dans l'incertitude. Absolument. C'est l'incertitude, ça veut dire que c'est up and down en permanence. On a, par moment, on reprend un petit peu de, un côté un peu plus optimiste en disant, bon, ça y est, on va tenir le coup parce qu'on est, on est presque au bout. Et puis hop, on replonge sous l'eau en se disant, bah non, finalement, peut-être qu'on est reparti pour 2 ans, 3 ans, 10 ans, on n'en sait rien, à vivre avec une épidémie et avec un virus.
Aurélien Schneider, les cas de dépression en France, ils seraient 2 fois plus nombreux qu'il y a un an. Alors, sans rentrer dans les tranches d'âge, on va y revenir dans un instant, les plus jeunes et les moins jeunes. Cette dépression 2 fois plus nombreuse qu'il y a un an, c'est aussi ce que vous constatez dans vos cabinets ?
Je ne peux pas dire que je constate des chiffres spécifiques, mais je constate en tout cas que beaucoup de mes patients qui sont plutôt anxieux au départ, c'est pour ça qu'on vient me consulter, ont aujourd'hui des idées négatives plutôt de l'ordre de la dépression.
Mais il y a plus de plaintes
Plus de plaintes plutôt dépressives qu'anxieuses, c'est sûr. On arrive dans quelque chose qui est une perte de motivation, perte d'envie et pas mal de tristesse.
Mais
aussi.
Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Puisque là, évidemment, on peut aller consulter. Ça, c'est... Enfin, on ne peut pas toujours, parce que c'est quelquefois difficile d'obtenir un rendez-vous compte tenu de l'état de la psychiatrie. Mais vous qui vous occupez finalement de nos comportements, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour éviter le pire, je dirais, pour éviter de sombrer.
Moi, je crois que ce qui est fondamental quand on cherche à sortir d'un état de dépression, alors heureusement, ce sont pas des états dépressifs majeurs d'une profondeur telle que ça nécessiterait hospitalisation, par exemple. Hein. Ce sont beaucoup de réactions dépressives. J'avais une patiente la semaine dernière qui me disait, moi, je suis quelqu'un qui suis capable d'accéder au bonheur simplement dans la journée, de m'offrir une pâtisserie ou de m'offrir quelque chose qui de très simple. Aujourd'hui, ça ne me fait plus d'effet. Donc c'est des choses comme ça. Et je pense que nous avons absolument, et c'est en ça que cette absence de confinement est, selon moi, et je suis tout à fait d'accord avec Serge Hefez, une bouffée d'oxygène. Il faut rétablir l'action. Et l'action, vous voyez, ce sont des choses très simples. L'action, c'est dire bonjour. Dire bonjour ce matin en venant tôt chez vous, je croisais quelqu'un qui faisait qui se ramassait les feuilles mortes sur le trottoir pour empêcher de glisser, etc. D'employé par la ville de Paris.
Je lui dis bonjour. Social,
je lui ai dit bonjour et on retisse, on agit simplement avec des choses mais vraiment basiques de notre quotidien. Rien que ça peut nous faire du bien.
Serge Hefez, on le disait, ce sont surtout les 18-25 ans qui montrent des signes de détresse, parfois alarmants même, jusqu'à des pensées suicidaires pour ceux qui déclarent que la mort serait plus supportable que les interdits qui se multiplient. Bon, ça ne vous surprend pas que ce soit donc les jeunes qui se montrent les plus fragiles en ce moment ?
Non, parce que c'est évidemment ce que je constate dans ma clinique. Moi, je vois beaucoup de jeunes, je vois beaucoup d'étudiants et je vois à quel point ils vont mal. J'ai envie de vous dire, parfois, le seul lien social qu'ils ont dans la semaine, c'est de venir à leur consultation. Donc, ça vous dit que, évidemment, l'oxygène pour des étudiants, c'est le lien social, c'est les copains, c'est d'aller au bistrot, prendre un verre après les cours, c'est d'être ensemble et tout ça. Ils en sont privés, ils sont devant des écrans toute la journée, ils logent dans des logements qui sont parfois extrêmement vétustes, ils n'ont plus de quoi se nourrir, ils n'ont plus de petits boulots. Bref, tout ça, on le sait, mais ça amène un état de détresse psychique absolument considérable chez eux, avec un avenir qui est totalement bouché, ils voient plus devant eux. Donc, je crois que c'est ceux qu'il faut pouvoir aider en priorité à l'heure actuelle.
En priorité.
Et ce qui m'alarme le plus, ah oui, en priorité, parce que ce qui m'alarme le plus, c'est qu'ils commencent pour beaucoup à consommer des médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs, parfois de façon tout à fait anarchique, parce qu'ils ont même pas la possibilité d'aller consulter, donc ils se passent entre eux des anxiolytiques. Tout ça, ça crée des addictions, et on ne sort pas de traitement anxiolytique et antidépresseur en 15 jours, c'est très 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 long pour se déshabituer de tout ça. Les consommations d'alcool sont absolument au sommet, sans parler des consommations d'autres produits stupéfiants. Donc si vous voulez, cette vague psychiatrique qui gagne les étudiants, moi ce que je redoute, c'est le temps qu'il va falloir pour retisser quelque chose et pour les aider à sortir la tête hors de l'eau.
Les enfants, pardon. Serge Hefez, là vous parlez des jeunes, mais avant les enfants, on sait qu'un enfant c'est particulièrement poreux et tributaire de son environnement. Est-ce que ça a déjà des conséquences tangibles aujourd'hui ou est-ce que ça en aura plus tard?
Ben ça en a aujourd'hui. Si je vois mes consultations de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant à la Salpêtrière, je vois des familles qui évidemment vont extrêmement mal. Et des enfants qui, bon, je les voyais déjà avant le Covid, donc c'est pas le Covid qui a provoqué des problèmes chez eux, mais je vois à quel point les problèmes sont majorés dans les familles et chez les enfants. Il y a une violence familiale. Je ne parle pas de coups, je parle d'une violence familiale qui est une tension chez les parents, une angoisse chez les parents qui est extrêmement forte, qui rejaillit chez les enfants, et des enfants qui avaient déjà des petits symptômes développent des symptômes beaucoup plus inquiétants aujourd'hui.
Serge Hefez, vous disiez que pour les étudiants, pour les jeunes en général, il va falloir du temps pour réparer tout cela. Comment est-ce qu'on va réparer tout ça? Comment est-ce que les enfants, les étudiants, les adolescents vont pouvoir se reconstruire? Avec quel levier?
Eh ben, c'est, Eh ben, j'espère que on prendra la mesure de l'insuffisance de réponses spécialisées psychologiques et psychiatriques à l'heure actuelle par rapport à tout le monde, mais principalement par rapport aux jeunes. Vous savez, avant le Covid, eh bien, si on voulait prendre un rendez-vous dans un centre médico-psychologique, c'est-à-dire des soins gratuits accessibles à tous pour un enfant qui va mal à Paris, on lui répondait ah ben non, c'est 6 mois, 8 mois ou 1 an d'attente. Vous imaginez, pour des enfants qui vont mal, c'est absolument impensable.
Et, finalement,
et donc évidemment, le Covid a majoré encore ces besoins.
Aurélia Schneider, cette crise, elle révèle donc un sérieux impact sur notre santé mentale. Et est-ce que ça ne va pas aussi servir votre cause de psychiatre? Serge Effes vient d'en parler. Oui. Les psychiatres qui avaient encore récemment dénoncé le peu de cas que les politiques publiques font de votre science.
Oui, c'est vrai qu'il y a un manque de bras. Mais surtout, il y a aussi... globalement, une mauvaise presse, la psychiatrie,
une
mauvaise presse.
Ouais, comment ça, mauvaise presse?
Mais parce que c'est pas si simple d'aller chez le psy.
Simple quand même qu'il y a quelques années.
Bien sûr, mais c'est pas encore si simple. Vois des patients qui n'osent pas dire à leur conjoint qui viennent me voir.
C'est tabou encore d'aller voir un psychiatre.
C'est encore un peu tabou et un peu beaucoup. Donc, on manque de bras, ça c'est certain.
Il y a une crise des vocations.
Et ben aussi, il y a eu un numerus clausus, il y a de ça des années, qui a fait que la profession...
Les médecins en général.
Ouais, les médecins et les psychiatres, voilà, c'est pas forcément très... On n'est pas très nombreux. Et puis, ça n'est pas si simple d'aller consulter. Donc, peut-être que cette crise va inciter à accepter plus facilement de se faire prendre en charge, de le démocratiser, de l'inclure dans nos vies, de dire, bon, bah ok, moi j'ai une consultation, je tiens à aller à ma consultation, c'est bien, ça me fait du bien. Voilà, moi je trouve que si ça sert à ça, on aura aussi gagné quelque chose de fondamental. C'est tout à fait honorable d'avoir un souci et d'aller le soigner.
Et à partir de quel moment il faut aller consulter? Je veux dire, soi-même, comment est-ce qu'on peut jauger?
Soi-même, on peut se dire, mais ça va pas du tout. Mmh. Et puis aussi, l'entourage peut dire, écoute, je te trouve vraiment moins bien, en ce moment, c'est difficile pour toi, tu t'isoles, etc. Et l'entourage peut avoir aussi un rôle, plutôt que de regarder en disant, allez, vas-y, secoue-toi, le nombre de fois où on entend, secoue-toi. Non, c'est fini, ça, c'est... On aide à prendre conscience et on aide à aller vers une consultation.
Serge Effes, sur l'influence politique des psys en ce moment dans cette crise, est-ce que les psys font partie des différents comités scientifiques qui se réunissent régulièrement avant les annonces politiques ?
Bah, écoutez, moi j'ai beaucoup regretté que effectivement le conseil scientifique qui statue sur notre santé depuis presque un an maintenant soit composé uniquement de médecins somaticiens et qu'il n'y ait pas un psychiatre ou un pédopsychiatre pour siéger et pour dire le message que la santé psychique et la santé physique, elles sont totalement liées, qu'on peut pas les disjoindre comme ça, qu'on n'a pas un corps qui fonctionne d'un côté et un esprit qui fonctionne de l'autre. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a un conseil scientifique qui s'est mis en place au niveau de la mairie de Paris, et bon, j'ai été très heureux qu'on me demande d'y participer parce que il faut du pluridisciplinaire par rapport à cette épidémie, que mettre ensemble des épidémiologistes, des médecins hospitaliers, des psychiatres et l'ensemble de la société civile qui travaille au sein d'une ville, d'une municipalité, mais aussi d'un pays, ça me paraît extrêmement important pour trouver des réponses.
Et est-ce qu'il manque
transversal qui ne soit pas que médical,
avec peut-être des consultations dans les hôpitaux spécifiquement dédiées psy-Covid? Ça n'existe pas aujourd'hui.
Il y a quelques consultations psy-Covid, mais qui sont largement insuffisantes. Moi, je vais vous dire ce qui manque le plus, parce qu'on n'a pas forcément besoin de psychiatre par rapport à ça, mais on a besoin de réponses psychologiques. Et à l'heure actuelle, il y a énormément de psychothérapeutes qui sont des psychologues cliniciens, qui sont de très grande qualité, qui peuvent accueillir les gens en ville et les aider à trouver et à mobiliser leurs propres ressources. Mais le problème, c'est que ce sont des consultations qui ne sont pas remboursées. Je pense que très facilement, on peut rembourser à l'heure actuelle les consultations de psychothérapeute clinicien, de psychologue clinicien, et que ça désengorgerait un petit peu le système, et que chacun pourrait aller s'adresser à quelqu'un et trouver un soutien.
Aurélia Schneider, dans la psychiatrie comme dans d'autres domaines de la médecine, ce qui est important, c'est la précocité du diagnostic. C'est important, ça, en ce moment, de bien anticiper.
Prendre les choses dès qu'on commence à trouver que on ne fonctionne plus comme avant. Alors c'est difficile de s'apercevoir qu'on ne fonctionne plus comme avant, parce qu'en général les évolutions sont insidieuses. Mais là, comme il y a eu des phénomènes de rupture très importants sur un temps court, eh bien on peut se rendre compte de nos dysfonctionnements par rapport à nos fonctionnements antérieurs. Donc en cas de dysfonctionnement, en cas de modification un peu durable de nos fonctionnements habituels, oui, faut pas hésiter à demander de l'aide.
Et vous le disiez en début d'interview, ce qui est prégnant en ce moment, c'est qu'on ne voit pas le bout du tunnel, et oui, ça, c'est un facteur aggravant.
C'est un facteur aggravant, absolument.
Merci beaucoup d'être venu nous éclairer ce matin, nos deux psychiatres, Aurélia Schneider et Serge Effers. Merci beaucoup. Et merci. Bonne journée à tous les deux. Il est 8h40.